Chers auditeurs de la radio du cinéma, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu véritablement immersif, puisque nous sommes en Suisse. Et j'ai la chance et le plaisir de me retrouver en face de la responsable de communication du Chaplin's World, qui en réalité, en fait, développe l'univers de Charlie Chaplin. Vous êtes Olivia Balliguet. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Bienvenue à la radio du cinéma. Donc évidemment, à la radio du cinéma, on aime les expériences atypiques. Finalement, vous nous avez permis d'entrevoir la vie de la famille Chaplin à travers Charlie Chaplin, évidemment. Avant qu'on démarre à parler de Charlie Chaplin, son univers, à travers ce musée, Olivia, comment est-ce que vous êtes arrivée dans cet univers? Je ne crois pas que vous soyez dans le sérail du cinéma au tout départ. Et en même temps, vous m'expliquiez que vous avez été piquée par le virus de Charlie Chaplin et ça nous a véritablement ouvert grand les yeux.
Oui, donc effectivement, moi, à la base, je n'ai pas une carrière qui était basée sur le cinéma ou la culture ou la musique, etc. J'ai une carrière qui est basée dans le marketing et la communication. Le premier film que j'ai vu dans ma vie était un film de Chaplin, donc j'ai quand même eu cette expérience-là de toute jeune. Et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup quand j'ai grandi, des films de Chaplin. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné de pouvoir un peu bifurquer dans ma carrière et j'ai trouvé ce poste ici en tant que responsable communication pour le musée et je me suis dit ben c'est super, je vais pouvoir travailler dans la culture, dans un domaine touristique, etc. Ça me plaisait beaucoup. Et puis Chaplin étant international et plaisant à tout le monde entier, je me suis dit ben pourquoi pas ?
On va quand même préciser que votre posture donc, de communicante, vous l'outrepassez quasi continuellement, puisque vous avez, entre guillemets, vous vous êtes imposé professionnellement de vous intéresser à la vie de Charlie Chaplin. Et j'avoue, vous êtes incollable sur des détails, mais alors une collection de détails, pièce par pièce. Alors, évidemment, on va parler de ce personnage. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que Charlie Chaplin, finalement, qui à la base est un citoyen anglais, d'accord, qui a migré aux États-Unis, et finalement, c'est en Suisse que ça se passe. Comment tout ça est arrivé?
C'est aussi arrivé un petit peu par hasard. Donc effectivement, il est anglais. Il était anglais. Mm-hmm. Il a déménagé aux États-Unis pour créer ses films, parce qu'Hollywood, quand même, c'est le berceau du cinéma. C'est là-bas qu'il a pu créer ses studios d'enregistrement, ses studios de tournage, etc. Et puis, un jour, dans les années, fin des années 40, début des années 50, il y avait toute une chasse aux sorcières avec le macartisme pour tous ces stars qui venaient de l'étranger et qui était aux États-Unis. Chaplin n'est jamais devenu américain, donc les Américains avaient il était un peu dans la cible des Américains. Et puis, avec toute cette histoire de chasse aux sorcières, avec le film aussi Le Dictateur que Chaplin a sorti en 1940, c'est vrai que ça leur a mis un peu la puce à l'oreille. Ils se sont dit, bon, cette personne-là, il est quand même un peu, voilà, il exprime...
Il a des idées politiques, de manière factuelle, en fait, qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde.
Exactement, et surtout, il les exprime au grand public, sans filtre et avec de l'humour, et du coup, ça plaisait moyennement.
Ça représentait une sorte de contre-pouvoir médiatique.
Voilà, c'est un peu ça.
Et donc forcément, ça nuisait terriblement au pouvoir en place.
Voilà.
Et il y a des gens qui lui ont fait entendre que c'était mieux se taire.
Exactement. Après, il a été aussi, on lui a dit qu'il était communiste. Enfin, il y a vraiment eu pas mal d'histoires autour de cette personne. Et puis un jour, alors c'est pas lui qui a voulu partir, parce que lui, il était bien installé aux États-Unis, à Hollywood, à créer ses films. Mais un jour, en venant en Europe pour la projection d'un de ses films, il a eu la nouvelle comme quoi son visa avait été révoqué et qu'il n'avait plus le droit de mettre les pieds sur le sol américain. Donc il était bloqué sur un bateau en direction de l'Europe et il n'avait pas le droit de retourner chez lui, sa maison, tout était là-bas.
Changement brutal et total.
Voilà, il a fallu changer de vie tout de suite, sa femme était enceinte,
Una Chaplin. Et ils ont eu ensemble 8 enfants.
8 enfants, exactement.
Et je crois que le total des enfants de Charlie Chaplin, entre toutes les conquêtes qu'il a pu avoir, ça représente, je crois, 11 enfants,
c'est ça ? 11 enfants, exactement.
C'est énorme.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, oui, le voilà parti donc en Europe.
Voilà, exactement.
Je crois qu'il est retourné un petit peu à Londres.
Alors, il est retourné un peu à Londres. Il a essayé de trouver un endroit où il pouvait s'établir avec sa famille pour que voilà, ça plaise à tout le monde, qu'il soit dans un environnement bienveillant et un climat assez agréable pour eux aussi.
La famille était tellement importante pour eux. Ouais. Ils avaient envie de choyer un nid vraiment coup de cœur.
Et puis, il fallait trouver un endroit pour accueillir les 5 enfants qui étaient les 4 qui étaient là et le 5e qui était en route. Et c'est comme ça qu'il a trouvé en fait cette maison dans laquelle on se trouve là maintenant.
Alors juste avant qu'il ne connaisse cette maison, il a séjourné un tout petit peu à l'hôtel Beau-Rivage,
oui,
sur les bords du lac Léman dans la ville de Lausanne. Mm-hmm. En fait, pour situer un petit peu pour les auditeurs, on se trouve à proximité de Lausanne, dans une ville qui s'appelle Vevey. Je crois que précisément le château, le manoir de Ban, puisque c'est de lui dont
le
on parle,
oui,
se trouve sur la commune de Corsier-sur-Vevey,
c'est ça.
Qui est vraiment attenant quasiment,
voilà, qui est juste en dessous.
Vevey,
en fait,
voilà.
De Vevey.
Donc on surplombe le lac Léman, hein. Mm-hmm. Il y a une vue absolument imprenable sur le lac Léman
et les Alpes,
en toile de fond. Enfin, une fois qu'il s'est posé en Europe et après avoir séjourné à l'hôtel Beau-Rivage, il y a eu cette histoire de coup de cœur avec ce manoir,
voilà,
le manoir de Ban, donc,
le manoir de Ban,
qui est devenu finalement son domicile jusqu'à la fin de sa vie.
Exactement, effectivement. Donc ils ont emménagé ici avec la famille en 53, début des années 53, et il a vécu ici toute sa vie, enfin toutes les dernières années de sa vie, pendant 25 ans.
Donc là, évidemment, sa carrière, elle était déjà un petit peu derrière lui, on va dire. Mmh. Hein, les grands films que l'on connaît tous l'accompagnent dans cette démarche. Donc c'est un homme qui n'a pour autant pas envie d'arrêter d'abandonner le cinéma, mais pour autant, en fait, sa maturité le pousse à des choses différentes.
Mmh.
Et il y a ce fameux film « Freaks » dont vous parlez parfaitement dans le musée, qui ne s'est jamais fait finalement, où il avait beaucoup réalisé de dessins préparatoires, etc.
Mm-hmm.
Et tout ça, évidemment, on en profite. Donc quand on rentre dans ce manoir de Ban, on y voit une maison très massive, ce fameux manoir, qui est la partie, on va dire, plutôt familiale,
oui,
dédiée à la famille de Charlie Chaplin.
Dans le manoir, c'est vraiment comme si vous étiez invité chez la famille Chaplin. Donc, il y a certaines salles, surtout au rez-de-chaussée, qui ont été recréées
à
presque à l'identique de l'époque où Chaplin habitait ici. Donc, vous avez la bibliothèque, qui était son bureau également, là où il a écrit les scénarios de ses derniers films, là où il a écrit son autobiographie, enfin tout, il a réécrit aussi la musique de certains de ses films. Donc là, c'était vraiment son espace de travail. Et puis après, vous avez le salon, où là, c'est vraiment plus la partie où il accueillait des visiteurs, des amis, des artistes, des musiciens. C'était un peu l'endroit où, voilà, pour faire la fête et puis pour être un peu tous ensemble. Et puis la salle à manger, qui était effectivement un endroit assez important pour lui, puisque c'est là où il pouvait retrouver sa famille tous les soirs autour d'un bon repas. Donc c'est vraiment les salles qui représentent un peu la vie de famille, puis la vie que Chaplin avait quand il était en Suisse.
Les couverts sont dressés, la table est dressée,
ouais,
on a l'impression qu'on est invité, quoi.
C'est ça, c'est vraiment, donner l'impression aux visiteurs qu'à, ouais, tout moment Chaplin arrive.
C'est ça.
Il passe la porte et il va dire « Ah, salut, voilà, je suis là !»
Et comme on y voit ces silhouettes donc, qui ont été réalisées en partenariat avec le musée Grévin, qui sont à la taille, à l'échelle 1 du personnage.
Mmh, hein.
On se retrouve en face de Charlie Chaplin,
voilà,
avec des vêtements qu'il a portés, ou en tout cas qui sont tellement approchants. On a vraiment la sensation que la présence du personnage, mmh, est partout.
Ouais.
Et donc après, évidemment, on monte dans les étages,
mmh,
et là, on y découvre encore des choses.
C'est un peu le but, c'est de découvrir aussi l'homme derrière l'artiste. Ouais. Charlot est né par hasard aussi. Il y a beaucoup de hasard dans la vie de Chaplin. Hein. Je pense que ça doit être le thème récurrent de sa vie. Et en fait, il devait remplacer quelqu'un qui jouait dans une pièce de théâtre.
On est aux États-Unis.
On est aux États-Unis. Ouais. On lui a dit, va vite chercher un costume derrière et puis viens jouer, quoi. Et donc, il a pris un chapeau trop petit, une canne, un pantalon trop grand, des chaussures. Enfin, là, il a pris un peu ce qui passait. Il les a mis et voilà.
Et le personnage de Charlot est né comme
Charlot
ça.
Charlot est né et resté comme ça, mythique, iconique derrière.
L'icône est née,
ouais,
quoi,
ouais,
quelque part,
ça,
en fait. Hein.
C'est
évidemment, c'est un personnage qu'on croise à peu près partout. Alors, on était encore sur la partie familiale, donc
oui,
il y a un étage. J'ai le souvenir de cette pièce, en fait, où il y a une galerie de portraits,
mm-hmm,
qui sont des gens qui ont fait partie de l'intimité de Charlie Chaplin, des grands de ce monde, hein, que ce soit dans le monde des sciences, Einstein, etc., la
culture, la musique. Et... Puisqu'en fait, on ne le sait pas beaucoup, mais Charlie Chaplin, de par certains membres de sa famille, ont des origines ciganes. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce qu'on voit un portrait de Manita de Plata, mm-hmm. le fameux guitariste gitan, qui a appartenu à son intimité. Hein.
Mm-hmm. Il est venu ici d'ailleurs aussi.
Ah bon, ben voilà. Ouais. Vous avez fait ériger une partie qui n'existait pas mm-hmm. à l'époque où la famille Chaplin vivait dans le manoir de Ban. Alors là, je vous laisse nous en parler et c'est absolument incroyable.
Oui, donc c'est une partie qu'on appelle le studio, oui. qui a été construite juste à côté de l'ancien garage de la famille oui. et qui a été vraiment construite, il y avait à l'époque, il y avait des vergers, donc voilà, c'était les arbres fruitiers de la famille.
On n'a pas précisé, il y a un très grand parc.
Oui, il y a plus de 4 hectares de parc en plus, voilà. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est très très grand et qui, à l'époque de Chaplin, était encore plus grand puisqu'il a été évidemment un petit peu modifié pour l'arrivée du musée. Mais donc la partie studio qui a été construite de zéro, elle représente en fait le côté cinématographique et l'œuvre cinématographique de Chaplin. Donc il y a un côté, il y a l'homme avec le manoir et la famille, et l'autre côté, il y a vraiment l'artiste.
Et la partie professionnelle
et tous ces films qui seront dans le studio. Comme si vous étiez sur un plateau de tournage, en fait.
Exactement.
Donc il y a tout, il y a les décors, il y a des charlots un petit peu partout. Et c'est vraiment comme si vous étiez vous-même sur un plateau de tournage, dans les décors, à tourner un film de Chaplin avec lui.
Charlie Chaplin, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Les jeunes générations, peut-être qu'elles ont entendu le nom à un moment donné, mais la filmo, je pense qu'elles ne la connaissent pas forcément. Mmh. Et pour autant, ça les intéresse beaucoup. J'ai pu assister à des scènes où on voit qu'il y a une interaction très forte.
Oui, et c'est vrai qu'on voit, beaucoup d'enfants venir.
Oui.
Alors, ils viennent aussi avec leur classe parce qu'ils étudient Chaplin
oui, il y a un côté pédagogique.
Dans les écoles. Ça fait quand même partie de ça. Mais il y a aussi beaucoup de parents ou grands-parents qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que peut-être eux ont baigné dans Chaplin quand ils étaient enfants et ils veulent partager ça avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ouais. Et moi, on le voit beaucoup, mais le film qui ne parle pas, fait rire sans parler. Donc tous les enfants vont forcément rigoler aux mêmes blagues parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir les paroles qui vont avec. Ça fera de toute façon rigoler les petits, les grands, tout le monde. Quoi. Et même d'autres cultures aussi qui viennent. Européen pour
le
apprécier du
Chaplin.
Le cinéma
muet, l'avantage, c'est qu'en fait, il a une codification totalement internationale. Mmh. Alors ce musée, il a été la motivation de qui au départ?
Alors le musée, il a été la motivation de deux personnes. Donc c'est vraiment deux messieurs qui sont à l'origine de ce musée. C'est Philippe Mélan et Yves Durand.
On est en quelle année pour le coup?
On est début année 2000,
d'accord.
Donc autour de 2000-2001. Philippe Mélan qui est donc un architecte suisse, mmh. Yves Durand qui est un muséographe québécois. Tous les deux fans de Chaplin, ils ont, la maison appartenait à la famille à l'époque et ils ont eu l'idée d'en faire un musée et de garder les murs de la maison telle qu'elle est et rendre hommage à Chaplin. Donc après derrière il y a eu une quinzaine d'années de projets lancés sur l'ouverture de ce musée, avec évidemment la famille Chaplin qui était très très présente pour être sûr qu'on représente le papa correctement. Il y a toutes les questions de droit, etc. Mais il a fallu remettre le manoir à neuf, puisque le manoir était une maison habitée. Mmh. Donc il a fallu la transformer en musée, construire la partie studio, réaménager le parc. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux et d'étapes qui ont fait que...
Ça a été financé par qui tout ça?
Alors ça a été financé par des aides des communes avoisinantes, il y a eu aussi des prêts privés, enfin, il y a eu pas mal de monde qui ont participé au financement du musée. Et au final, voilà, ça a pris une bonne quinzaine d'années puisque le musée a ouvert en 2016.
On imagine que chaque année, vous essayez d'y apporter peut-être quelque chose en plus ou faire évoluer des choses, non? Expliquez-nous un petit peu.
Oui, effectivement, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de faire revenir les gens sur d'autres animations qui ne vont peut-être pas forcément être en lien avec le musée directement, mais qui vont faire revenir les gens sur le site. Donc, on a organisé des expositions temporaires sur le thème de Chaplin. Il y a eu des expositions temporaires sur certains de ses films, par exemple Le Kid ou Le Dictateur. Il y a eu une exposition temporaire sur le lien entre De Funès et Chaplin aussi, qui était assez, assez rigolo. Et puis, on a des animations un peu plus ciblées pour les familles avec leurs enfants, qui puissent venir découvrir une animation et découvrir le musée.
Chaque année, vous accueillez combien de visiteurs dans
Alors,
le musée
Ces dernières années, on accueille à peu près environ 200 000 visiteurs D'accord. par année.
La famille Chaplin, j'imagine, a vu le musée
oui,
alors, de plusieurs reprises.
La famille Chaplin était bien sûr à l'origine du musée aussi, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ouais. être sûr que l'hommage soit bien rendu.
C'est un suivi.
Voilà. Et puis, c'est aussi beaucoup eux qui nous ont prêté des objets qui leur appartenaient, puisque au décès de Chaplin, les enfants ont hérité de tout ce qu'il avait. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'objets qu'on a dans le musée qui appartenaient réellement à Chaplin et qui nous ont été prêtés par la famille. Et ils sont assez régulièrement sur site. Alors pas tous viennent forcément voir le musée, ils l'ont tous vu au moins à l'ouverture, c'est sûr. Mais on en a certains qui viennent assez régulièrement, qui habitent pas trop loin, qui le font visiter quand ils ont des amis qui viennent à la maison. Et puis,
Là, on parle des enfants, peut-être même des petits-enfants.
Alors, les enfants de Chaplin viennent assez régulièrement, ouais. les petits-enfants aussi, un peu moins, parce qu'ils sont un petit peu plus dispersés à l'international. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai que maintenant, il y a plusieurs générations en dessous de Charlie. Ouais.
Il doit y avoir une certaine fierté, d'ailleurs, ouais. de la part de la famille,
oui.
comme ça, à prolonger le mythe. L'icône à travers les âges et, ouais. et un peu de manière... ça traverse les générations finalement. Quoi.
Oui, et puis on voit maintenant même les petits-enfants de Chaplin sont encore très impliqués. Une des petites filles de Chaplin fait de la peinture et elle représente souvent son grand-père du coup sur ses tableaux. Donc ça a quand même... le nom de Chaplin est resté et puis beaucoup en sont fiers. Quoi. Et je pense que c'est vrai qu'on a pas mal de visiteurs qui viennent et qui ne réalisent pas en fait qu'il a vécu ici déjà, vraiment, réellement, et qui en demandent davantage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu encore assez d'informations sur Chaplin, malgré le manoir, malgré le studio, malgré tout ça. Et même des gens qui sont venus, qui n'étaient pas forcément fans de Chaplin, en fait, se repartent avec les DVD, les livres, parce qu'en fait, ils ont découvert un nouveau personnage qu'ils avaient peut-être vu dans des films, mais ils ont découvert l'homme derrière l'artiste, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment...
La grande force de ce musée.
Ouais.
C'est que précisément, on découvre... Alors nous, on l'a fait dans cet ordre-là aujourd'hui, mais on découvre l'environnement familial de Charlie Chaplin. Et puis, évidemment, quand on rentre dans le studio, on découvre son œuvre et à travers beaucoup de scénographies qui sont très, très, très réussies. Et j'avoue que ça rend extrêmement curieux sur le personnage dans son ensemble. Et vous avez une très jolie boutique où, effectivement, on peut acquérir bon nombre d'ouvrages en différentes langues, en fait. Et puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités de garder des souvenirs de ce musée. Alors, il y a une tradition à la radio du cinéma. Olivia, je vais vous demander, en fait, à titre personnel, que vous me donniez votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Donc, désormais, vous devenez l'actrice de cette interview. Et donc, écoutez, voilà, il y a trois petites marche devant vous avez une scène,
c'est
à vous de jouer.
C'est parfait.
On vous écoute.
Alors, film préféré, malheureusement, ça ne va pas être un Chaplin. Après, je peux vous donner mon film de Chaplin préféré aussi,
si vous voulez.
Mais donc, si on part sur le Chaplin, mon film préféré, c'est Le Kid, parce que c'est quand même assez mythique comme film.
Bien sûr.
Mais ce ne sera pas mon film préféré de tous les temps dans ma vie personnelle.
On dit de cinéphile.
Voilà, exactement. Donc, moi, je suis une grande fan des films comédie musicale. Je ne sais pas s'il y a un genre, voilà. Et c'est vrai que Mamma Mia reste un petit
votre
peu dans mon
cœur,
voilà. C'est d'accord. un peu cliché, mais bon, voilà.
J'ai connu trois garçons charmants en même temps. Quel cachetier !
La dernière fois que j'ai vu ta mère, elle a dit qu'elle ne voulait jamais me revoir.
Après, la musique de film préférée, alors je pourrais pas dire forcément pour un film spécifique, mais je suis une grande fan de Hans Zimmer. Donc toutes les bandes originales qu'il a faites lui, Inception et compagnie, c'est j'adore. Je trouve que c'est assez incroyable.
Et
ça donne
vous avez un
vie.
Coup de cœur dans la filmo de Hans Zimmer ou...
Alors Inception est quand même exceptionnel, Interstellar aussi, mais c'est vrai qu'entre les deux, c'est un peu kiff-kiff les deux, disons.
Comme on dit, donc, en Suisse, ça joue.
Voilà, exactement.
Très bien.
Et puis réplique de film, alors là, j'ai dû quand même bien réfléchir. Mais il y en a une que j'aime assez bien, qui résonne assez bien avec ma philosophie de vie, j'ai envie de dire. Mais c'est dans Forrest Gump, avec la boîte de chocolat, quand il dit que la vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, ou voilà, c'est un peu ça. Donc je trouve ça assez sympathique.
Eh bien, chère Olivia, merci infiniment.
Mais merci à vous.
Vous écoutez la radio du cinéma. Cette radio est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Nous sommes encore et toujours en Suisse, dans le canton de Vaud, sur la commune de Vevey, tout proche de Lausanne. J'ai en face de moi Christophe Ming, qui est le propriétaire d'un hôtel qui s'appelle l'Astra Hôtel, sur la commune de Vevey. C'est une affaire familiale depuis déjà 3 générations. Et on a eu le plaisir de faire connaissance sur le site. Et vous m'avez raconté énormément d'anecdotes sur des artistes qui ont élu domicile dans cette région, dans ce fameux canton de Vaud. Bonjour Christophe et bienvenue à la radio du cinéma.
Bonjour David.
Alors merci de nous accueillir dans votre hôtel qui est absolument fabuleux. On a une vue et à la fois d'un côté sur le lac Léman, puisqu'on jouxte le lac Léman, et de l'autre côté on profite des vignobles de cette région-là.
Alors ça, effectivement, c'est l'institution Veveyzane, notre hôtel. On est le plus grand établissement de Vevey.
Quand vous dites Veveyzane, évidemment, c'est la ville de Vevey.
De Vevey. Hein,
voilà, qui est quasiment attenante à la ville de Lausanne.
Lausanne, Montreux.
Et Montreux.
Plutôt Montreux que Lausanne.
D'accord.
On a le laveau UNESCO qui nous sépare de Lausanne. Toutes ces vignobles en terrasse qui ont été construites par les moines cistériens il y a bien quelques années, mais qu'on pourra peut-être parler plus tard, mais qui a quand même un reflet dans la brasserie qui date de 1912 chez nous, à Vevey. Et nous, on est en face de la gare, donc vraiment idéalement situé pour faire du tourisme avec les trains et de faciliter la mobilité. Pour la région touristique qui est la Riviera, Montreux, Vevey, Riviera. Et c'était l'occasion de parler un peu d'un peu tous ces éminents personnages qui ont fréquenté, qui ont habité ou qui habitent notre région, avec quelques histoires. Je crois que vous avez été visiter qui s'appelle le musée Chaplin,
oui, voilà.
Chaplin's World.
Mais je crois, il me semble, Christophe, que vous avez également croisé dans la ville de Vevey et dans vos établissements un certain nombre de personnalités, et vous avez d'anecdotes à nous raconter, à commencer peut-être par Charlie Chaplin.
Mais on a plein d'anecdotes, j'oserais vous reprendre de dire que Charlie Chaplin est venu finir sa vie ici, sa fin de vie. Je dirais plutôt qu'il est venu vivre ici, la région, la Riviera, qui change totalement. Il a élevé ses enfants étaient à l'école ici, dans les écoles publiques. Il a vécu la région, ses derniers films ont été produits depuis ici, il a reçu des personnalités ici dans son manoir. Il y avait aussi la pianiste Clara Askill qui habitait ici, qui était très régulièrement à jouer du piano chez Chaplin, qui était de très très bons amis, qui habitait à Vevey. Et il a également beaucoup contribué à la région. De par sa personnalité.
On rappelle qu'il avait 8 enfants.
Il avait 8 enfants du dernier mariage.
Voilà.
Et avec Oona O'Neill.
11
qui
enfants.
Est la fille, ouais, 11 enfants au total. Et avec sa dernière femme, Oona O'Neill, qui était la fille du dramaturge new-yorkais et qui est décédée bien des années après. Et il faut savoir que Chaplin, quand le macartisme, son visa a été retiré, sa femme américaine pouvait retourner aux États-Unis. Et elle a pu retourner régler des affaires aux États-Unis. Mais lui, étant bloqué en Europe, il a cherché un lieu et lui, il était très focalisé de partir sur la Riviera française, au sud de la France, un lieu qu'il affectionnait énormément. Et quand il est arrivé, il savait que la Suisse, quand il ne pouvait plus retourner aux États-Unis, parce que c'est quand même le United Artists, c'est quand même lui qui avait créé aux États-Unis tous ses studios. Et pour la faire courte, il s'est dit, je pars de l'Angleterre, je vais chercher à m'installer avec ma famille au sud de la France. Et entre deux, je vais m'arrêter en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, il y avait des avocats et des banquiers qui pouvaient lui assurer et le protéger, parce qu'il devait tout de suite protéger Chaplin. Mm-hmm. Et Charlot devait être protégé. Lui, comme il ne pouvait plus retourner là-bas, et il a voulu construire cette protection avec des avocats et tout ça en Suisse. Et puis quand il est arrivé en Suisse, tombé amoureux de la Suisse, il a découvert ce manoir de banc qui était à 80 km de Genève. Il arrivait là, il arrivait dans ce parc avec cet arbre absolument majestueux. C'est et il a dit, c'est là que je vais poser mes valises avec ma famille.
Un véritable
dans un havre de paix. Ouais. Et c'est là que tout a commencé, absolument. Dans sa vie en Europe avec sa famille. Donc la petite histoire, et après Charlot ici sur la Riviera, après aussi le Montre Jazz qui est arrivé, mais peut-être que si pour tous vos, toutes les personnes qui nous écoutent aimeraient connaître plus l'histoire de Charlot, de Chaplin, de sa vraie histoire, il y a Sir Richard Attenborough qui a, au début des années 90, qui a sorti un film qui s'appelle Chaplin, et l'acteur principal c'est... Robert Downey Jr. Qui a tourné dans ce film et qui a fait une prestation absolument magnifique par rapport à cette, comme il a fait Charlot et comme il a imité Charlot, Robert Downey Jr. C'est une prestation incroyable, un film à absolument voir. Et là, vous pourrez voir toute cette histoire américaine, ce macartisme, tout ce qu'on a pu dire sur Charlot, sur Chaplin et comment est-ce qu'il est revenu en Europe.
Donc ici, on est dans une région viticole. Donc nous sommes sur le canton de Vaud, d'accord. Et c'est amusant parce que, versus la France, un raisin comme le Chasselas, que l'on considère comme du raisin à manger en France, eh bien en Suisse, vous avez décidé d'en faire du vin.
Entre Lausanne et Vevey, vous avez justement toutes ces terrasses de vignobles qui ont été construites par les moines cistériens. Mmh. Et puis de là, c'est créé tous ces parchets de vignes ont eu des propriétaires différents. Et puis bien sûr, les gens qui étaient propriétaires de ces petits parchets de vignes, eh ben, ils ne savaient pas comment travailler la vigne. C'était pas des vignerons, c'était plutôt des notables. Et puis ils ont été là, ils ont été voir leur parchet de vigne. C'était quelque chose de luxueux d'avoir ça. Et ils ont dû trouver et créer une confrérie pour célébrer et encourager les vignerons tâcherons. On pourrait presque dire que c'était le premier parti socialiste, parce qu'à la place de réprimander ceux qui faisaient mal le travail, eh ben, on les a plutôt félicités, mais sur une génération de travail. C'est-à-dire que le vigneron tâcheron, au vu de la proximité d'une vigne, d'un propriétaire et d'un autre, s'il y avait une maladie qui s'installait d'un côté, c'est-à-dire que c'était mal entretenu, et bien elle passait de la prochaine vigne, elle continuait, etc. Et ils avaient la devise, la bénédictine, qui était Ora Labora, pour cette par prix et travail, qui était leur mot d'ordre pour cette confrérie. Et après, ben, ils ont dit le travail de toute une génération, donc ils vont toujours à ce jour. Ça a été créé environ 1647, première fête des vignerons environ 1770.
1770, donc.
70, voilà, hein? Merci de me corriger. mon français est bizarre. Hein? et à ce moment-là, ils ont réellement créé cette confrérie et cette célébration du meilleur vigneron tâcheron, contrôlé 4 fois dans l'année, donc sur les 4 travaux de la vigne, au printemps, en été, à la vendange et en hiver. Après, on ne va pas parler de la qualité du vin, c'est peut-être pas le meilleur vin qui est sorti, mais c'est la meilleure qualité du travail de la vigne. Et c'était ça qui était important pour les maladies. Et d'ailleurs, si vous vous promenez, vous voyez ça aussi en France chez vous, c'est que vous voyez souvent des rosiers qui sont devant les vignes. Oui. Et les rosiers sont là. Pas pour les prévenir, mais pour les voir.
Oui.
Parce que les roses vont toujours attirer les maladies sur elles. Mmh. Et puis comme ça, on va voir plus vite qu'une maladie s'installe. Mmh. Donc, c'est pas seulement pour faire joli, mais c'est un effet en fait de contrôle de ce qui se passe dans la vigne.
Et, alors racontez-nous, Christophe, quels sont les visages que vous avez pu croiser, ou dans la ville, ou dans votre établissement, ou les deux. Vous me parliez d'un festival de jazz, évidemment, qui est de renommée internationale.
Le Montreux Jazz Festival, qui était parrainé par Quincy Jones. Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson.
Absolument.
Hein, vous avez croisé chez Chaplin aussi, Michael Jackson.
Absolument. Vous l'avez croisé. On le voit en figurine.
Mais vous savez pourquoi vous l'avez croisé?
Vous allez me le dire.
Vous ne vous rappelez pas pourquoi vous l'avez croisé?
Non, dites-moi.
Non, parce que pour Michael Jackson, Charlie Chaplin était un mentor, était un total amant de
son inspiration absolue.
Inspiration. Et c'est ce qu'on peut trouver chez Chaplin ou chez Michael Jackson. Déjà, la première chose, le premier moonwalk. Le premier moonwalk a été fait par Charlie Chaplin en 1936, allez voir sur YouTube, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez le premier moonwalk, l'inspiration, Michael Jackson l'a fait quelques années après.
Bien sûr. Hein.
Il l'a peut-être remis au goût du jour. Et après, il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus difficile à voir. Mais si vous regardez un film de Chaplin qui a pas qui est muet, de Chaplin, vous regardez un concert de Michael Jackson live, lui, il a, avec son visage et son corps, il arrive à vous capter sur le visage ou à vous faire disparaître le visage sur l'image de votre image à vous, de ce que vous voyez, pour que vous voyez son corps, pour voir le mouvement du corps. Mmh. Et après, avec les yeux, il vous rattrape et il vous remet sur le visage pour que vous rattrapiez le visage. Essayez une fois, c'est quelque chose de... on dit, c'est malade à voir.
C'est complètement une expérience à part entière.
À voir ça.
D'accord.
On a eu beaucoup de
l'argent. Oui, vous parliez de
Freddie Mercury,
qui a vécu une partie de sa vie ici, donc proximité de Vevey, hein, on est d'accord.
Il était sur Montreux, sur Blenay, donc juste à côté, là où il y a justement ce Montreux Jazz Festival.
Ouais.
Et puis Freddie Mercury, quand il habitait là, il était en même temps, il y avait un autre artiste peu connu qui s'appelle David Bowie, qui était par là.
Ouais.
Et puis bien sûr, ils étaient dans des styles de musique complètement différents, dans des univers différents, mais c'est quand même ici à Montreux, sur la région, qu'avec le fondateur Claude Knobs du Montreux Jazz Festival, qui a dit une fois, hors festival, aux deux, ils ont dit, mais une fois, vous pourriez peut-être faire quelque chose ensemble, hein, quand on est un peu voisins, qu'on habite la même région, puis qu'on trempe la fourchette dans la même fondue, on peut faire quelque chose ensemble. Ouais. Et puis ils ont dit, ouais, ce serait peut-être une idée de faire quelque chose. Et après, ils ont écrit Under Pressure.
Donc c'est né ici.
C'est né ici, Under Pressure, est né complètement ici.
C'est dingue.
Et après, il y a une petite bagarre entre les deux, parce que Freddie Mercury...
Bagarre d'égo, hein, disons les choses.
Bien sûr.
Avec bienveillance.
Ils ont été à la... dans le Mountain Studio, là où Freddie Mercury a beaucoup enregistré de choses, au casino de Montreux. Ce studio qu'on peut encore visiter, hein, il a été remis, qu'on peut visiter pour les touristes qui viennent par là. Et ils ont été après à... lui, il a fait son enregistrement et il était très haut dans la voix, comme vous l'entendez dans la chanson. Et après, il est parti, David Bowie est parti à Los Angeles pour enregistrer sa version. Mais très peu de temps après, Freddie Mercury est décédé. Donc il y a eu, je crois, une version là où ils ont chanté ensemble live, mais qui existe, mais ça doit être la seule.
Oui.
Autrement, c'est toujours un enregistrement qui existe. Après, on a ce Montreux Jazz Festival. D'ailleurs, on fête cette année, début juillet, le 60e de ce festival. C'est des archives aussi incroyables qui sont aussi à l'UNESCO, parce que tout est digitalisé. Mm-hmm. Et le grand avantage de ce festival, c'est que dès le départ, ça a été enregistré. Donc tous les artistes qui sont montés sur scène...
Oui, il existe une mémoire collective.
Exactement. Et c'est tout à l'EPFL à Lausanne, là où ils ont tous ces enregistrements.
Qu'est-ce que c'est l'EPFL ?
L'université.
D'accord.
Les hautes écoles de Lausanne.
Qui représentent les archives un peu...
Qui représentent, qui digitalisent en fait, c'est une école très technique, une des meilleures écoles de technique en Europe, mais dans tous les domaines. Hein. Mm-hmm. Et ils sont dans cette digitalisation, puis toutes ces œuvres. C'est les premiers festivals aussi qui ont pris l'enregistrement par instrument. Donc tous les instruments étaient enregistrés séparément. Et on peut sortir le son d'une guitare, on peut sortir une voix, on peut vraiment tout sortir. Et ça, depuis toutes les techniques nouvelles, depuis 60 ans, ont été prises par le fondateur de Montreux Jazz qui voulait toujours les meilleures techniques.
On peut rappeler son nom ?
Claude Knobs. Mm-hmm. Et il a ramené une fois, aussi pour la petite histoire, de nouveau dans l'image, hein, comme on est avec l'image.
Bien sûr.
C'est qu'il est parti une fois au Japon, il était aussi avec une société d'enregistrement et, en Europe. Et il est parti au Japon, puis au Japon, il y a Sony qui sortait la caméra digitale, les premières caméras digitales. Puis il a dit, c'est super, et maintenant il faut, prochain festival, moi j'ai un festival à Montreux, c'est un petit festival, mais il faut venir, moi j'aurais sur scène Miles Davis, alors ce serait peut-être bien, venez avec la caméra, la nouvelle caméra HD, et puis on va le filmer. c'est les seules images de Miles Davis live en HD qui existent au monde et qui sont dans ses archives. Et les caméras étaient tellement grosses, c'était des prototypes. Alors, ils devaient les échanger pendant le concert. Tellement ça chauffait qu'ils devaient les descendre dans les frigos et puis après les remonter, etc. C'était toutes des histoires de fous.
Mais en même temps, de véritables innovations technologiques.
Exactement. Et puis, c'était, on parle de ça environ... 15 à 18 ans avant qu'on ait la première télévision HD à la maison. Donc, pour ça que Miles Davis, on a des images HD de Miles Davis. Donc, ça, c'est... Et après, si on repart encore un petit peu en arrière, en 71, vous voyez, j'ai appris le français, je m'améliore.
j'entends ça.
En 71, il y avait deux musiciens aussi, là, à Montreux, qui étaient... je ne sais pas si vous les connaissez jusqu'en France, Frank Zappa,
évidemment.
Ah, bien sûr, qui était sur scène. Et puis, ceux qui venaient de quitter la scène, c'était Deep Purple,
qui ont
quitté la scène, puis ils sont rentrés à l'hôtel, ils ne sont pas restés au concert de Frank Zappa. Mais Frank Zappa n'a pas eu de chance parce que le casino a commencé à brûler pendant son concert. Donc, ils ont dû évacuer, le casino de Montreux brûlait. Puis, comme il est devant le lac, l'aimant, et puis que derrière, un peu derrière dans l'hôtel, il y avait le Deep Purple, le groupe qui était là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit à Smoke on the Water?
Ça leur a inspiré la chanson.
Exactement. We all been in Montreux. C'est les premières paroles de la chanson. Et ça les a inspirés. Et bien sûr, pour les producteurs, les managers, ils ont fait un enregistrement comme ça dans leur suite d'hôtel pour donner à Claude Knobs le lendemain, tellement il était triste que ça a brûlé. Puis ils ont dit, bah, tiens, on a fait un petit enregistrement pour toi, pour sécher l'alarme, au lieu de donner un Kleenex. Et puis après, il a dit, mais c'est fantastique, mais ça, c'est incroyable, mais ça, vous devez la mettre sur votre prochain disque, hein, vous allez partir au Japon, mais il faut prendre cette musique avec au Japon et tout ça. Producteur, manager, non, c'est nul, ça vaut rien, etc. Et puis après, avec un peu d'insistement et puis de retravailler un peu la chanson, bah, ils l'ont mise dessus, puis hein, je crois que c'est un succès non des moindres de Deep Purple.
Le tour du monde, ça a fait le tour du monde. Incroyable.
On a aussi à Vevey un festival du film qui a lieu au mois d'octobre. Le Vevey International Fun Festival. C'est un très sympa.
Bon, Jacques-Christophe, on ne peut pas se quitter sans la tradition de mes interviews. En l'occurrence, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée.
Bah, on est en Suisse, donc on a parlé de la Riviera, on a parlé du lac, mais nos montagnes ne sont pas loin.
Exact.
Et dans nos montagnes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait du ski, on fait de la marche. Et moi, les bronzés font du ski, c'est mythique. C'est mythique. Et je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il fallait se déguiser, les bronzés font du ski, pour une soirée. Et puis tout le monde était là, en train de chercher le déguisement, etc. Moi, je me suis mis en homme d'église. Et tout le monde m'a dit, mais tu n'es pas dans le thème quand je suis arrivé. J'ai dit, non, vous avez oublié quelque chose. Dans le film, il y a une chapelle. Qui dit chapelle, dit homme d'église. Mais vous ne l'aviez pas vu dans le film. donc voilà, et puis toutes ces imbécilités qui ont été faites et dites me réconfortent aussi avec votre langue française. Mm-hmm. Parce que quand on va à la crêperie et puis il dit t'as de la pâte, t'as du sucre. Ici, chez nous, c'est les Parisiens qui disent du sucre, qui disent par les R.
Oui.
Chez nous, on dit les R, on aurait dit du sucre. Demandez à un Suisse la réplique, est-ce que la réplique il dit sucre ou sucre? Aucun Suisse pourra vous répondre, il dira toujours sucre. Il dira jamais sucre parce qu'ils ne connaissent pas.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Donc ça, c'est de la fine oreille.
Eh oui, j'entends ça.
Mais comme on va de la fine oreille, on disait
des chansons. On va vers la musique, du coup.
Alors, moi, quelque chose que j'adore, c'est Queen, Don't Stop Me Now. Ouais. Parce que quand vous mettez ça sur la playlist, quand il y a un peu tout le monde qui s'endort en soirée comme ça, Don't Stop Me Now, tout d'un coup, il y a tout le monde qui se lève, qui danse,
c'est
la fête, et c'est de l'énergie qui arrive à toutes les heures du jour ou de la nuit.
Bon. Et donc, votre réplique préférée, alors?
Alors là, je dis, il faut fermer les yeux parce que je dis ça aussi à mes collaborateurs certains jours. C'est deux acteurs qui sont dans un croisement je vous laisserai deviner ce que c'est. Ils sont dans un croisement, deux voitures qui se touchent, une voiture qui n'a pas beaucoup de dégâts, l'autre qui est dans tous les sens. Et celui qui sort de sa grosse voiture, qui est Louis de Funès, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Bourville, il sort de sa voiture avec son appareil photo autour du cou. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma deux chevaux, elle est... il n'y a plus rien là, elle est complètement détruite. » Et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Donc, est-ce que ce problème, on va le régler? Donc, j'utilise aussi avec mes collaborateurs, je monte la réplique sur YouTube.
On parle évidemment du film Le Cornio.
Exactement, voilà. Le Cornio. Ben voilà, voilà. Le tout début du film, avant qu'il soit dans sa Cadillac.
Absolument. Merci infiniment, cher Christophe.
Je vous en prie. Bonne journée
à
vous.
À une prochaine fois, merci.
Bonne journée, merci.
Au revoir.
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.